Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au cours des missions précédentes, je vous ai parlé de l'âme qui n'est pas immortelle et qui par conséquent ne monte pas au ciel. L'homme est une âme, comme le sont aussi des animaux. Je vous ai expliqué que celui qui meurt entre tout simplement dans le long sommeil de la mort. Suite à cela, j'ai reçu quelques lettres d'auditeurs me demandant des précisions sur certains passages bibliques. Je vais y répondre en vous rappelant que le temps qui m'est imparti sur l'antenne est court. Il ne m'est donc pas toujours possible de citer tous les versets qui traitent d'un même sujet. Je vous conseille de demander les textes mis gratuitement à votre disposition. Vous pourrez ainsi les compulser quand bon vous semble. On me demande si Enoch et Élie sont montés directement au ciel. Bien entendu, la réponse est non, puisque Jésus lui-même nous a fait savoir que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Puisque notre Sauveur est descendu du ciel, il doit savoir ce qui s'y passe et aussi qui s'y trouve. La Bible nous confirme que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dans son épître aux Hébreux, Paul donne d'autres précisions à ce sujet. Il écrit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Dans le récit de la Genèse, Moïse ajoute « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. » Ces versets ne nous disent pas qu'Enoch marche encore avec Dieu. Non, ils affirment qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans, pas une année de plus. S'il était monté au ciel, s'il se trouvait près de Dieu, alors il continuerait à marcher avec Dieu. Mais il ne marche plus avec lui aujourd'hui, comme c'est le cas pour tous ceux qui sont morts. Et Enoch dort du sommeil profond de la mort. Puisqu'il avait appris qu'il était agréable à Dieu, nous pouvons donc en déduire qu'il marcha par la foi. Vous savez sans doute que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque nous examinons le livre de la Genèse et que nous y découvrons l'expression « Tous les jours d'un tel furent de tant d'années », cela signifie que ce personnage vécut pendant ce nombre d'années. Enoch vécut 365 années, après quoi il mourut. Beaucoup de gens supposent que, puisqu'il fut enlevé, cela signifie qu'il ne mourut point. Mais ce n'est pas ce que Moïse écrit. Il ne dit pas non plus qu'il est monté au ciel. Revoyons encore une fois ce que révèlent les Écritures à son sujet. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous trouvons cela dans Genèse 5, 24, et Paul ajoute « Enoch ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. » Que devons-nous conclure de cet enlèvement? Faut-il supposer qu'il alla au ciel? Croire cela ne tiendrait pas compte de ce que Christ a affirmé « Personne n'est monté au ciel. » La Bible déclare simplement qu'on ne le trouva plus. Dieu le prit. Cette expression ne signifie pas qu'il est monté au ciel et qu'il devint ainsi un être immortel, spirituel. Le mot original grec, métatitémi, a le sens de transférer, de transporter vers un autre endroit. Après la mort d'Enoch, Dieu prit son corps, il l'enleva, il le transféra pour qu'il ne fût plus trouvé. Dieu l'enleva et l'ensevelit comme il le fit pour Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Il est fort possible que Dieu fît cela pour éviter que le peuple ne se prosterne devant la dépouille de Moïse, ne fasse des reliques qui deviendraient l'objet d'un culte. Si nous examinons bien les Écritures, nous constatons que le corps d'Énoch a tout simplement été transporté dans un autre endroit. Enlever ou transporter ne signifie pas rendre immortel. Dans Colossiens 1:13, l'apôtre Paul écrit que « le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ». Sommes-nous déjà transportés dans le royaume? Non. Les chrétiens n'ont cessé de mourir depuis que Paul a écrit cela. Ils ont toujours un corps composé de chair et de sang. D'ailleurs, Paul a ajouté « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » N'oublions pas qu'avant sa conversion, le chrétien était plongé dans les ténèbres de ce monde, mais il a été transféré, transporté des ténèbres à la lumière du royaume de Dieu au moment de sa conversion. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est ce que Paul écrit dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 39, et il poursuit en disant « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. » Si Enoch se trouvait déjà près de Dieu, ces deux versets nous induiraient en erreur. Mais la parole de Dieu est la vérité, par conséquent nous pouvons avoir la certitude qu'il n'a pas obtenu ce qui lui était promis, parce qu'il ne pouvait pas parvenir sans nous à la perfection, tout comme les autres qui sont cités dans ce chapitre ne l'ont toujours pas obtenu. L'objet de la promesse, la vie éternelle, leur sera accordé au retour du Christ, pas avant. C'est pourquoi Paul ajoute, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Enoch fait partie de tout cela, comme vous le constaterez en lisant le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Cependant, qu'est-ce que Paul a voulu dire en écrivant « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. » Remarquez bien que ce passage n'affirme pas qu'il ne mourut point, mais qu'il ne vit point la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Tout homme doit mourir. Même le Christ est mort, comme je vous l'ai déjà expliqué. La Bible confirme qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, et que le salaire du péché, c'est la mort, mais la mort éternelle. Voyez donc cela dans Romains, le chapitre 3 et le chapitre 6. Et ceci aussi est valable pour Enoch, qui, ayant vécu jusqu'à l'âge de 365 ans, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Ce n'est qu'à partir de sa 65e année qu'il décida de faire la volonté de Dieu, de marcher selon ses commandements et ses lois. Il y a une première mort, mais il en existe une seconde. De par notre nature, nous sommes tous destinés à la première mort. Mais la seconde mort est destinée aux pécheurs, sauf s'ils se repentent sincèrement et marchent avec Dieu. C'est pour éviter cette seconde mort que Jésus est venu sur terre. L'apôtre Jean écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Jésus a parlé d'une mort qui peut être évitée. Il affirma « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Et il ajouta « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Autrement dit, ne mourra pas pour toujours. Dans ces passages, il n'est pas question de la première mort qui est réservée à tous les hommes. Enoch l'a donc connu, mais il échappera à la seconde mort qui ne touchera aucun de ceux qui participeront à la première résurrection. Voyons maintenant ce qui arriva à Élie. Pour bien comprendre cet événement, je vous conseille de lire tout le deuxième chapitre du second livre des rois. Akasia, roi d'Israël, étant mort, la volonté divine était qu'Élisée prenne la place d'Élie. À cet effet, Dieu a fait les choses d'une manière telle que le peuple ne puisse croire qu'il s'agissait d'une disgrâce pour Élie. Voyons ce qui se passa alors qu'il était en compagnie d'Élisée. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie ne monta pas au ciel où se trouvait le trône de Dieu. Toutefois, il ne pouvait rester indéfiniment en l'air. Il fut transféré dans un autre endroit, car 10 ans après son enlèvement, Élie écrivit une lettre à Joram, roi de Juda, qui avait suivi les voies des nations païennes, faisant ainsi le mal aux yeux de l'Éternel. Dieu se servit encore d'Élie pour adresser une lettre à Joram. Lisons-la. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, voici l'Éternel frappera ton peuple, et toi, il te frappera d'une maladie violente, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. » Cette lettre, écrite par Élie, 10 ans après son enlèvement, fut transmise au roi et reconnue comme émanant de lui. Ceci prouve qu'on le savait vivant quelque part. La Bible n'indique pas le nombre d'années qu'il vécut encore après l'envoi de ce document. Élie était un homme comme vous et moi, soumis à la mort. Il se trouve au nombre des prophètes qui moururent dans la foi sans avoir obtenu les promesses. Supposez que Dieu lui octroyât le pouvoir de mener une existence sans fin qui, déjà compterait plus de 3000 ans, c'est contredire la Bible. Élie était mortel, sujet à la mort. Après avoir été enlevé dans les airs, il passa les dernières années de son existence autre part sur terre, vivant à la manière de n'importe quel être humain, jusqu'au moment où il s'éteignit de mort naturelle. Énoch et Élie sont morts comme tous les autres avant nous. Ils sont retournés à la poussière de la terre, où ils attendent la résurrection des justes qui aura lieu lorsque le Christ viendra établir son royaume sur cette terre.